Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, tout d'abord je tiens à m'excuser de vous avoir fait faux bond dimanche dernier. J'étais au pèlerinage au Mont-Saint-Michel pour le 30e anniversaire des Sacres en action de grâce. Ce fut un beau pèlerinage. Et puis le lendemain, dimanche, c'était l'ordination de frère Marcel de la Croix, l'ordination au diaconat, bien sûr. Vous vous doutez bien que le temps m'a manqué. J'espérais vendredi pouvoir faire le sermon, j'ai pas pu. Enfin, voilà. Réjouissez-vous cependant, nous avons un nouveau diacre, c'est beaucoup. Et puis vous avez eu le sermon de Mgr Williamson. Nous allons aujourd'hui parler de la prière. Et tout d'abord, saint Thomas d'Aquin pose une question. La prière est-elle un acte de désir ou un acte de l'intellect? Un acte de la volonté, donc un désir, ou un acte de l'intelligence? Et il répond à l'évidence que la prière est un acte de l'intelligence. Et je vois vos têtes d'ici. Vous êtes tous surpris parce que vous attendiez que saint Thomas vous dise que la prière est un acte de la volonté, qu'elle exprime un désir. Eh bien non. Et c'est très important. Évidemment, nous pourrions être un petit peu décontenancés par la manière de saint Thomas de poser les questions, parce que se demander si la prière est un acte de la volonté ou de l'intelligence, n'est-ce pas chercher la petite bête? Et pour des fidèles qu'on a besoin d'encourager à prier, est-il même utile d'entrer dans ces distinctions qui peut-être intéresse les prêtres, et encore on se demande bien comment des prêtres peuvent trouver intérêt au séminaire à étudier ces choses-là. Je vous dirais très franchement qu'au séminaire, quand j'ai lu cela la première fois, j'ai été évidemment surpris, comme vous, mais très intéressé et même passionné. Pourquoi la prière est-elle un acte de l'intelligence ? Parce qu'il s'agit pour nous d'entrer dans le plan de Dieu. Rappelez-vous bien que nous sommes dans la vertu de justice. Oui, je sais, la vertu de justice est dans la volonté. Et c'est pourquoi on pourrait s'attendre que la prière soit dans la volonté. Mais nous sommes dans la vertu de justice, et il s'agit d'accomplir la justice. Et on ne peut pas foncer pour accomplir la justice. C'est pas parce que nous aimons Dieu que nous allons foncer. C'est un drame, justement, quand on fonce, on fait n'importe quoi. Il s'agit d'appliquer la vertu de justice, donc le plan de Dieu, de nous mettre à notre place. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la justice. Nous mettre à notre place. Et nous allons considérer deux choses. Tout d'abord, les moyens que Dieu veut employer. Et considérer les moyens, c'est un acte d'intelligence. Vous allez me dire, c'est plus peut-être de la prudence. Oui, strictement parlé, considérer les moyens, c'est plus un acte de la prudence. Mais ces moyens, il va falloir les obtenir de Dieu. Pas les obtenir n'importe comment. Les obtenir parce que ce sont ceux-là qui sont sages, qui correspondent à la sagesse de Dieu. Donc, ce sont ceux-là que Dieu veut que nous prenions, que nous utilisions. La prière est un acte de l'intelligence parce que nous arrivons par elle, près de Dieu, en lui disant « Seigneur, Seigneur Dieu, j'ai compris ce que vous voulez, j'ai bien vu ce que vous voulez. Alors, je vais le faire avec vous, je vais me soumettre à vous, et ainsi, puisque je serai totalement dans votre main, vous pourrez me donner ce qu'il faut pour réussir, que vous ne donneriez pas à quelqu'un qui n'est pas dans votre main. Celui qui n'est pas dans la main de Dieu, Dieu ne va pas agir envers lui. D'abord parce que Dieu n'a pas envie de confier ses trésors à quelqu'un qui va les dilapider. Et puis surtout parce que celui qui n'est pas dans la main de Dieu ne cherche pas les trésors de Dieu, et les trésors de Dieu vont passer à côté de lui. Il va s'en moquer, il en a garde, il n'en a cure. Prenons l'exemple de Saint Jean Bosco et de Don Michel Rua, R-U-A, Rua, le premier successeur de Don Bosco, pratiquement l'ami le plus intime de Don Bosco. Don Bosco, vous le savez très bien, a fait une multitude de miracles. Il en faisait tellement qu'on avait l'impression que certaines fois, il ne se rendait pas compte de tous les miracles qu'il faisait. Rassurez-vous, il s'en rendait bien compte. Et Michel Roua, son premier successeur, n'a fait qu'un miracle dans sa vie. Don Bosco déclara: Michel pourrait faire des miracles s'il le voulait, mais il ne le veut pas. Et donc Michel n'a pas fait de miracle. Rome, cependant, avait remarqué Michel Roua, et après la mort de Michel, Rome voulait le canoniser à l'égal de Saint Jean Bosco, comme quoi un grand saint fait des miracles, et un autre grand saint, il n'est que bienheureux, il n'a pas été canonisé. Puis les canonisations d'aujourd'hui, maintenant, nous n'en tenons plus compte, elles sont pas sages, elles sont n'importe quoi. Donc nous en restons bienheureux. Un grand saint, Saint Jean Bosco, fait des miracles, un autre grand saint n'en fait pas. Et tous les deux sont saints. Saint Jean Bosco a vu le drame dans lequel Dieu l'a mis, Dieu l'a suscité pour répondre à un drame. C'était le drame de l'exode rural, c'est-à-dire des petits bergers des Alpes qui n'arrivaient pas à vivre, la terre ne pouvait plus les nourrir. En réalité, si, la terre nourrit toujours son homme, mais quand les francs-maçons ont décidé d'avoir de la main-d'œuvre à pas cher dans leurs usines, ils font en sorte de baisser les prix agricoles, de façon à ce que la terre nourricière ne suffise pas à nourrir. Ils provoquent ainsi un exode rural. Les petits bergers, les petits pâtres des Alpes, les enfants surtout, étaient envoyés par leurs parents à la grande ville de Turin. À Turin, ils n'avaient pas de mal à trouver du travail, puisque les usines les attendaient pour cela, et plus il arrivait de petits jeunes, plus les usines se développaient et plus on investissait. La franc-maçonnerie a fait exactement la même chose en Angleterre avec les enclosures, qui ont chassé les paysans anglais et les ont amassés dans les villes industrielles. Avec deuxième avantage que comme ils arrivent nombreux, ils sont prêts à se faire embaucher à n'importe quel prix, et ça baisse les salaires. C'était une petite parenthèse, mais elle n'était pas inutile. Don Bosco voit cela. Il arrive au tout début de ce qu'on peut appeler la révolution industrielle du nord de l'Italie. Dieu le suscite pour ça, et Don Bosco se rend bien compte que Dieu va faire la pige aux francs-maçons, il va leur faire le pied de nez. Les francs-maçons savaient que, à ce rythme-là, parce qu'il y avait toutes les idées nouvelles également dans le clergé italien, l'Église d'Italie allait bientôt sombrer faute de prêtres. Le clergé n'était pas bon, grande partie du clergé n'était pas bon avec les idées nouvelles, et il n'y avait plus d'enthousiasme, il n'y avait plus de vocation. Saint Jean Bosco suscitera 4000 prêtres. À la fin de sa vie, il demanda de faire le compte, et il était très fier d'annoncer qu'il avait suscité, avec ses collaborateurs bien entendu, mais enfin quand même, 4000 prêtres, et avec tous les effets collatéraux bien entendu, c'est-à-dire que d'autres prêtres ont été suscités par l'exemple, indirectement par l'exemple de ceux que Don Bosco avait fait se lever. Sans compter les vocations religieuses. C'est ce qui a sauvé l'Église d'Italie. Et les francs-maçons, sur ce point, en ont été pour leurs frais. Si je vous raconte ça, c'est pour que vous compreniez bien. Et c'est parce que nous nous trouvons dans des situations concrètes un petit peu semblables à celles-là, et ça ne sert à rien de faire de la piété si nous ne voyons pas que nous sommes au milieu d'un monde de francs-maçons qui cherche du profit capitaliste et qui tient l'homme pour pas grand-chose. En tout cas, pas pour une créature de Dieu. C'est important parce que je ne vous prêche pas seulement pour vous faire du catéchisme, je ne vous prêche pas seulement pour vous faire de la piété, je vous prêche pour que, en sortant des sermons, vous fassiez ce que vous avez à faire. Et vous le fassiez bien. Vous le fassiez, c'est-à-dire vertueusement, fassiez pas n'importe quoi, et vous le fassiez bien, là aussi c'est la vertu. Donc Don Bosco voit ce drame. Il voit que Dieu l'envoie dépourvu de tout moyen humain je veux dire, et il voit que Dieu intervient dans sa vie par une série de miracles. C'est Dieu qui commence les miracles avec les songes de Don Bosco, qui sont des visions par lesquelles Dieu s'adressait à lui. Et Saint Jean Bosco voit à l'évidence que la méthode de Dieu au moment de l'exode rural, au 19e, c'est la méthode des miracles. Ce qui ne veut pas dire que l'homme n'aura rien à faire, mais le miracle va faciliter l'action de l'homme. Don Bosco va se donner énormément de mal. Il était très fier de dire « Je suis fier que notre congrégation soit une des congrégations où l'on travaille le plus et où l'on se donne le plus de mal. » Ça aussi, c'est important. Les miracles n'ont pas pour but d'éviter que nous nous donnions du mal, mais de faire que notre mal soit dans le plan de Dieu. Saint Jean Bosco fait donc des miracles et il supplie le bon Dieu de lui accorder les miracles parce qu'il voit que c'est cela qui est bon. Et Dieu les lui accorde. Moyennant quoi, des jeunes le suivent et Don Bosco leur transmet de l'enthousiasme. Ils sont sûrs, ces jeunes, de suivre Dieu en suivant Don Bosco. Ils sont très généreux. Par exemple, je vais vous donner un seul exemple. Un ancien élève vient voir Don Bosco et Don Bosco lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là dans le monde ? Tu serais bien mieux à aider Don Bosco. » Il parlait de lui à la troisième personne dans ces cas-là. Parce que les jeunes l'aimaient tellement qu'un jeune aurait eu du mal à dire « Non, je ne veux pas aider Don Bosco. » Tu serais bien mieux à aider Don Bosco, c'est-à-dire à devenir religieux. « Oh, je peux pas, Don Bosco, j'ai ma mère. »« Eh bien, tu vas aller chez ta mère, tu vas lui dire que si elle te laisse partir, elle vivra une longue vie et qu'elle ira tout droit au ciel sans passer par le purgatoire. » Le jeune va voir sa maman et lui dit « Maman, si vous me laissez partir au service de Don Bosco, voilà la récompense que vous en aurez. » La mère bonne chrétienne lui dit « Mais pars, mon fils, pars. » Il a été nommé en Uruguay. C'est quand même pas la porte à côté de Turin. Il fut nommé en Uruguay. Il ne revit jamais sa mère. Un jour, il voit en songe l'âme de sa mère qui entre directement au ciel. Elle venait de mourir. Elle entre directement au ciel sans passer par le purgatoire. Deux jours après, un télégramme lui arrive, lui annonçant le décès de sa mère. Vous voyez que le miracle fait que non seulement Don Bosco est dans le plan de Dieu, mais que le jeune va entrer dans le plan de Dieu grâce à ce miracle. Et il est bien normal que le bon Dieu, que Saint Jean Bosco demande à Dieu que les choses soient ainsi. Nous allons voir dans le sermon dimanche prochain pourquoi il faut le demander. Ça sera autre chose. Ne fixez pas là-dessus pour l'instant. Il est normal que Saint Jean Bosco demande à Dieu qu'il en soit ainsi. Don Bosco se met dans la main de Dieu en demandant, et puis il met les jeunes dans la main de Dieu. Par contre, Don Rua va être chargé par Dieu de faire une œuvre qui dure. Une œuvre qui soit efficace, qui porte du fruit, quels que soient les Salésiens qui agiront. Vous comprenez à l'évidence qu'il n'est pas possible que les centaines du temps de Don Bosco, les milliers de Salésiens, les Salésiens sont les disciples de Don Bosco, que les centaines et les milliers de Salésiens sèment tous des miracles sous leurs pas, comme faisait Don Bosco. C'est plus l'Église, ça. On serait plus sur la terre. Le bon Dieu fait des miracles, mais il n'a pas fondé une terre de miracles. Il a fondé une terre telle que nous la connaissons, il a promis les ronces et les épines, le pain à la sueur de notre front, et à la femme d'engendrer dans la douleur, et de se sanctifier en engendrant. Donc des miracles, oui, mais ça ne peut pas être tout le temps, sinon ça serait un autre monde. Don Rua le voit bien. Et Don Rua ne demande pas de miracles, parce que le plan de Dieu, c'est désormais de pratiquer la méthode, d'être fidèle à la méthode. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir que les Salésiens successeurs de Don Bosco, sans faire aucun miracle, portent autant de fruits que Don Bosco faisant des miracles. Et donc, si Don Rua avait prié pour faire des miracles, il ne se serait pas mis dans la main de Dieu. Dieu lui aurait répondu, mais tu n'as pas compris. Tu peux toujours demander, mais ce n'est pas ça que je veux. Et donc je ne te le donnerai pas. Vous avez la même chose avec Monseigneur Lefebvre. Dans le petit mot qu'il dit au repas après les sacres du 30 juin 1988, Monseigneur avait été très, très soucieux de savoir s'il devait faire les sacres ou non. Nous avons cru, nous, à notre petite mesure, qu'il se demandait s'il était bien légitime de sacrer. En réalité, je crois qu'il y avait aussi autre chose qui intervenait, c'est que la fraternité ne le suivait pas vraiment. Le prêtre, oui, les simples prêtres, oui, beaucoup. Mais le supérieur général traînait des pieds. C'est quand même grave. Et il n'était pas le seul. Et Monseigneur Lefebvre se disait, mais vais-je faire plus de bien, plus de mal? Il voyait bien qu'il approchait du terme de sa vie, puisqu'il mourra à peine 3 ans après. Et il était bien inquiet, justement, de faire la volonté de Dieu. Il savait depuis fort longtemps qu'il sacrerait un jour. Il savait depuis une vingtaine d'années. Mais était-ce le moment? Était-ce comme ça? Était-ce les bonnes circonstances? Et Monseigneur Lefebvre va prier. Il a beaucoup prié. Et il nous révèle qu'il dit à la Sainte Vierge, « Très Sainte Vierge, vous êtes intervenue, vous êtes apparue à des petits-enfants pour les éclairer sur des affaires beaucoup moins graves que celle que j'ai à traiter, vous pourriez bien m'apparaître à moi aussi pour me dire ce que je dois faire. » Et Monseigneur Lefebvre nous dit, « Non, elle ne m'est pas apparue. » Il a vu cependant un signe de la Sainte Vierge dans le fait que on lui proposait des évêques pour le 15 août, un petit clin d'œil, ça lui a suffi. Et moi, en entendant ça, je me suis dit « Oh, Deo gratias, qu'elle ne lui soit pas apparue !» Parce que nous sommes dans un tel drame qu'il ne s'agit plus seulement d'encourager des bons chrétiens un peu faibles à revenir à la pénitence, à la prière, à la que sais-je. Nous sommes vraiment dans une crise de la foi, et il n'y a que la foi qui puisse nourrir la foi. Et si Notre-Dame était apparue à Mgr Lefebvre, eh bien, à l'évidence, ça aurait été en dessous. Le remède n'aurait pas été à la mesure du mal. Mgr Tissier de Malraix m'a écrit une lettre en disant « Vous ne pouvez pas justifier les sacres. Seul Mgr Lefebvre sait ce qu'il fait et nous, nous ne pouvons que savoir que nous avons à le suivre. » Quand j'ai reçu cette lettre, c'était un peu avant les sacres, j'étais horrifié. Je venais d'écrire une brochure pour expliquer la légitimité des sacres. Aussitôt, j'ai envoyé ma brochure, puisque l'abbé Tissier de Malraix, secrétaire général, ne voulait pas la recommander. Je l'ai envoyé à Mgr Lefebvre, qui lui l'a recommandé chaleureusement. Eh bien, c'est cela. Si Mgr Lefebvre avait eu une vision, nous aurions été obligés de faire confiance à un homme qui avait eu une vision. Mais ce n'est pas comme cela qu'on restaure la foi. Comment aurions-nous fait, nous, après ? Mgr Lefebvre, au contraire, en étant obligé de prendre la décision à la seule lumière de la raison éclairée par la foi, hein, c'est pas la foi n'est pas aveugle, c'est la raison éclairée par la foi. La foi nous montre ce que nous devons faire. Mgr Lefebvre, en prenant cette décision à la seule lumière de la raison éclairée par la foi, du coup, nous tous, ayant la foi, pouvions faire le même raisonnement, voir la sagesse de Mgr Lefebvre, la sagesse de la décision, et du coup, nous le suivions parce que nous avions la foi. Nous le suivions pour Jésus-Christ. Faisons bien attention, je termine ce sermon. Je voulais le faire encore un petit peu bref, et puis j'y suis pas arrivé. Il faut croire que la Providence ne veut pas que je prêche brièvement. Faisons bien attention, mes bien chers frères. Je compléterai ce sermon dimanche prochain par un autre sermon sur la prière pour montrer comment nous entrons dans le plan de Dieu, pourquoi, comment. Mais il me paraissait très important de vous montrer cette sagesse que saint Thomas nous révèle, parce que c'est vraiment ce dont nous avons besoin aujourd'hui. On ne demande pas n'importe quoi, n'importe comment, simplement parce que ça nous fait plaisir. Et vous, appliquez cela. Posez-vous la question, comment vais-je me mettre dans le plan de Dieu ? Et je vous donne déjà une toute petite avance sur le sermon de la semaine prochaine. Demandez au bon Dieu de vous mettre dans son plan. Mon Dieu, mon Jésus, très sainte Vierge, je ne suis pas sûr, ou je pense, ou je crois, être dans le plan de Dieu. Si j'en suis pas sûr, donnez-moi la certitude. Si j'y suis pas, mettez-moi dans le plan de Dieu. Si je crois être dans le plan de Dieu, montrez-moi que c'est vraiment cela la voie. Faites que je sois dans le plan de Dieu. C'est la première chose à lui demander. Nous verrons dimanche prochain pourquoi. Demandez-le particulièrement à la Sainte Vierge. De même qu'il y a eu un Don Bosco intercesseur entre Dieu et les petits bergers des Alpes, il y a la Sainte Vierge intercessrice entre Dieu et nous, ses pauvres enfants. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.